Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes lundi, je sais pas où vous voyez la date, hein. On n'est pas loin du 22, quelque chose comme ça. Vous écoutez Flash sur le monde par Élise Mbok pour Radio Silence. Alors, j'ai un peu du retard à l'allumage. C'est que la saison des pluies a commencé au Cameroun et puis bon, oui, on est tous malades ici. Enfin, moi, ça peut pas me louper, palu, tout et tout. On dit que c'est pas le palu, c'est la typhoïde. Plus allergie alimentaire, c'est la totale. Bon, voilà, aujourd'hui, je me sens un peu mieux et je devais réagir depuis quand même. Je me devais et on se devait à Radio Silence réagir sur ce qui se passe entre l'Iran et Israël. Oh, alors c'est vrai qu'en même temps, ça tombait bien que je puisse me taire, parce qu'à un moment donné, il faut, c'est bien d'écouter en arrière-fond comme ça, ou d'assister comme ça à une grande symphonie fantastique délivrée par l'Iran. Alors c'était magnifique, parce que ça va, Israël, ou pour nous autres qui avons presque voué notre vie à démonter ce que c'est que Israël, et on a payé le prix fort. Hein. Bon, moi j'ai payé le prix fort, je suis pas la seule, parce que c'est leur boulot, ça, Israël, de terroriser tout le monde. Alors, pour une fois qu'ils sont sous la terreur, oh, franchement, moi je cache pas mon plaisir. C'est pas trop dans l'esprit religieux de Radio Silence, mais politiquement parlant et humainement parlant. Non seulement parce que cette insolence, cette arrogance, cette envie de détruire le monde entier de façon permanente qui possède cheville au corps d'Israël, c'est quelque chose qui a détruit tant et tant de personnes, tant et tant de personnalités, surtout lorsque vous entrez dans la pensée, le savoir. Et c'est quelque chose qui a détruit des vies, des familles, et qui, dont le paroxysme a été atteint avec Gaza. C'est inouï, cette histoire-là, dit Israël. Alors moi, franchement, bravo l'Iran, parce qu'il faut que Israël ressente, si c'était un être humain, dans sa chair, la souffrance physique, terrible, les crimes, l'élimination que cet État, enfin, ce faux État, a fait subir aux autres. Donc voilà, superbe symphonie là par l'Iran. Attendez, Israël va attaquer. Ils se prennent. Enfin, de quel droit ils vont attaquer, eux, de façon préemptive l'Iran, alors que le problème de Gaza est pendant. C'est incroyable, c'est au-delà de l'arrogance, moi je sais pas. Après, on dit qu'on a vu le ministre de la Défense, israélite ou israélien, j'en sais rien, s'en prendre au gars du Mossad qui apparemment, vous voyez, le Mossad était devenu tellement arrogant, tellement indépendant, parce qu'ils sévissent dans le monde entier et qu'ils ont soumis l'Amérique, enfin les hommes politiques américains, et puis même les présidents africains, bon voilà, tellement. Et sûr de leurs méfaits, donc c'est le Frankenstein, comme ça, l'enfant de Frankenstein qui le déborde et qui va commettre cet acte inouï et malsain, et d'où on ne sait plus si Netanyahou c'était juste une grande gueule, parce que là il suffit qu'on bombarde et puis son ministre va gronder le gars du Mossad. Mais qui vous a dit d'aller bombarder l'Iran? Qui vous a dit d'aller réveiller le monstre? Et là, moi, l'ayatollah Khamenei, je ne sais pas comment on prononce, il est excellent. Il est excellent parce que il est toujours dans son calme souverain, ça c'est très iranien. Et d'ailleurs, Ahmadinejad, le président iranien, avait théorisé déjà cette histoire, rayer Israël de la carte. Voilà, c'est ça qui se joue là, parce que. C'est une vieille histoire, il faut avoir la mémoire. Enfin, vieille. Pas si vieille que ça, parce que c'est peut-être les années 90 où Israël commençait à monter, 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 et puis en 2000, ça a culminé. Et Ahmadinejad, qui a été président à ce moment-là, a marqué fort Il s'en cachait pas, il faut réessayer la carte. Alors une fois, CNN, on lui a demandé, mais c'est quoi, franchement, vous voulez réessayer la carte? Vous voyez, ils ont pris ça au premier degré, comme on dit à la lettre. Mais il a expliqué que non, c'est pas ça. Il faut voir à l'esprit, c'est-à-dire que le comportement d'Israël est tel que ce n'est pas acceptable. Voilà, donc il faut rayer ça, rayer cet esprit. Et depuis, vous savez, les Israéliens avaient pris l'habitude avec leur histoire d'antisémitisme, oh mon Dieu, ou derrière laquelle ils s'abritaient pour commettre tous les crimes qu'ils veulent, et puis toute la propagande négative qu'ils pouvaient vous coller autour. Oh non, ils n'écoutent pas ce que vous dites, eux, ils ont un discours pré-enregistré, pré-organisé, pré-écrit, et qu'ils vont asséner, asséner à travers les médias qui ont été achetés par tous les sionistes. Parce qu'on va y arriver au sionisme. Le sionisme, si on veut, ça déborde un peu Israël, mais quand on creuse un peu, on va voir qu'au bout du bout, on va trouver la franc-maçonnerie, et au bout du bout, on va trouver que la franc-maçonnerie et Israël, bah, c'est la même chose. Bon, donc, on n'est pas ici dans un débat ethnique, on est là dans un débat vraiment politique et humaniste aussi, ne même pas dire humanitaire, humaniste. Et quelqu'un a déjà, un historien a déclaré que, bah, avec ces frappes de l'Iran, bah, c'est le début de la fin du sionisme. Oui, début de la fin du sionisme, c'est-à-dire début de la fin des comportements unilatéraux, de cette arrogance qui permet aux gens de venir coloniser les gens, de les piétiner et puis d'empêcher les autres de lever de sortir la tête de l'eau. Non, non, c'est un capitalisme, c'est même pas du capitalisme, je sais pas. Le sionisme, c'est autre chose. On peut dire nazisme, mais quand on a dit nazisme, on est resté au niveau du militaire, mais c'est-à-dire que le sionisme, c'est une horreur à proprement dite. Donc des stratèges, comme les Ahmadinejad, déjà, le président iraniens ont préparé ça depuis. Ils ont préparé, et d'ailleurs, Netanyahou le disait tout le temps, qu'ils allaient attaquer l'Iran. Parce que le prétexte, hein, la bombe nucléaire et tout, et tout, et tout, joli, joli. Comme on a dit qu'à Saddam Hussein avait les armes de destruction massive, tout se recoupe, c'est toujours le même mode opératoire. Alors, l'Iran cessera d'une aide, on se prépare depuis, calmement. Oui, calmement, on attend, on voit la bête arriver, on voit la bête arriver. Et finalement, la bête arrive et tombe dans le piège. Boum. Ah, l'erreur à ne pas commettre. L'erreur à ne pas commettre, parce que ça aussi, on l'a déjà souligné une fois. Moi, je l'ai écrit à Facebook là, au début du conflit. Enfin, du conflit, oui, ça fait une semaine, mais on dirait que c'est une éternité. J'ai dit, mais l'Iran, attention, quand vous allez vous attaquer à des peuples qui ont une grande histoire, comme un peuple, le peuple perse, c'était des empires, qui sont même d'ailleurs les persans, très, très, très à la base de l'Église catholique. Vous voyez, il paraît que l'un des papes forts était un perse, d'origine perse. Et donc, ce n'est pas des gens que vous venez ramasser comme ça parce que ils ont une épaisseur temporelle. Parce que là, il faut aller dans ce qu'on appelle le spatio-temporel, puisque je sais pas, quelqu'un disait où c'est le temps qui est, où c'est l'espace qui est le temps. J'avais écrit ça quelque part, le temps dilaté, puis le temps concentré. Bon, enfin bref, je me souviens plus très bien, mais ce temps, il est porté par l'espace. C'est pour ça que l'identité, voilà, on va en revenir à ça. Quand vous avez été un empire, l'identité reste. Et l'identité est nationale. Et vous avez la responsabilité dans une forme, c'est une formule de, je crois, Bergson, hein, qui parle d'un écoulement, écoulement continu, irréversible. Vous avez l'obligation, c'est-à-dire c'est quelque chose de. C'est mystique de protéger ce territoire. Et si vous avez été un empire qui garde la mémoire, comme les Perses la gardent, la mémoire, c'est-à-dire la tradition, c'est-à-dire la noblesse, parce que oui, c'est ça, les Perses, c'est des nobles. Vous voyez? les grands princes avant. Vous ne pouvez pas venir comme ça et un saltimbanque, il est ici en 1948 et vous commencez à défier les grands princes. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez pas. Alors, eux, ils ont toujours un fond d'honneur et de fierté qui est militaire, forcément. C'est-à-dire qu'avant qu'Israël découvre le militaire ou l'Amérique, mais les Perses sont militarisés depuis jusqu'aux ongles. On ne leur apprend pas la guerre. On ne leur apprend pas. Alors là, ils leur ont montré, non seulement ils sont prêts depuis longtemps, mais ils ont perforé. Attendez, imaginez cette histoire, parce qu'Israël est fort dans la propagande. Le récit, on a parlé tellement l'autre jour. Une forme de dissuasion par un discours dilaté, voilà, et qui vous fait peur aux terroristes sur place. Vous allez voir, etc. Le dôme de fer, vous ne passerez jamais. Effectivement, c'est un territoire qui était qui est emmailloté, protégé par la Jordanie, les bases américaines qui entourent Israël. Je ne sais pas comment l'Iran fait pour passer, traverser tout ça avec ses missiles, arriver donc au cœur du sanctuaire israélien, Tel Aviv, et de frapper. Bien sûr, il y a eu un déluge de missiles qui ont perturbé tous ces patriotes, je ne sais pas quoi, l'interception. Et alors, quand vous voyez la conception qui permet qu'à la fin, on peut jouer avec le patriote, c'est inouï. C'est inouï. C'est que l'Iran a démontré, c'est vraiment une gifle, pas seulement pour Israël, mais forcément pour l'Amérique. Eh oui, et Trump devait réagir. Et en plus, l'Iran, ce n'est pas la guerre sauvage. Eux, ce n'est pas des sauvages, c'est des grands princes, c'est des nobles, la tradition. Multi, enfin, je ne peux pas. Et ils ciblent pas, ils font pas la guerre comme les bœufs, là, les taureaux israélites qui frappent du gouvernement Netanyahu, qui frappent à Gaza et de façon aveugle, de façon, comment on va dire, lâche. Non, là, c'est la classe. Ouais, un peu comme Mohamed Ali, quand il combat, ou même comme les Japonais, vous voyez, le dernier geste, dès que la serre est dehors, on ne touche plus. Ça veut dire qu'il y a un raffinement même de la guerre. C'est pour ça que j'ai appelé ça des symphonies fantastiques. Une symphonie fantastique, l'Iran nous a proposé. On ne tire pas comme ça pour aller tuer les civils. Non, les civils n'ont rien à y voir. On cible le cœur du pouvoir. Et c'est une guerre. J'ai presque envie de dire, mais propre. Elle est propre, pas une guerre. L'Iran fait du travail propre, hein, et clinique, voilà. Il frappe le cœur du pouvoir, les institutions, et en plus, il a eu deux symboles forts. C'est la frappe du... c'est quoi cette histoire-là? Le Mossad, voilà, l'UNI 8200, je ne sais pas trop quoi, de frapper ce bâtiment. Mais alors, c'est incroyable. En déviant toutes les barrières possibles, mais c'est... Oh, j'ai envie de chanter. Enfin, ça fait chanter, parce que ça chante vraiment, parce que le Mossad, il faut le détruire comme ça, il faut l'abattre. Et c'est symbolique, mais c'est très puissant, parce que là, il y a on est au cœur du cerveau, de la pensée, en fait, s'ils ont même pensé, de la stratégie, parce que oui, voilà, israélite, et... L'autre symbole fort, c'est l'Institut Weizmann, qui est aussi l'équivalent en Israël de ce qu'était la bibliothèque d'Alexandrie en Égypte. Donc, c'est frapper. C'est ce que Israël fait, c'est ce que l'Iran fait. C'est propre. C'est la guerre telle qu'elle était conçue avant. Bon, d'accord, sur le terrain, quand c'était. Je parle pas de ça, hein, parce que sur le terrain, c'est une boucherie. Quand c'était avant, je parle d'avant, mais aujourd'hui. C'est dans les airs, mais les airs, ça ne veut pas dire on tire comme ça, on prend les gens. Et l'Iran, voilà, a pris le pouvoir. A pris le pouvoir en Israël. Benjamin Netanyahou est caché, il envoie des discours. Oui, on a tué le président Ahmadinejad, qui n'avait quoi à voir l'ex-président, c'est d'une lâcheté. Genre, c'était lui comment on dit, celui qui a théorisé. C'est cette histoire de réisraël la 4, oui, mais ça, peut-être que comme Le Pen disait, il a dit haut et fort ce que tout le monde pensait tout bas, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il croyait Netanyahou? s'y pensait. Alors là, vraiment, l'Iran qui stoppe. Ce qu'on ne pensait pas, c'est avec des frappes intelligentes, parce que là, on voit très bien que l'Iran a mis quelque chose dans cette guerre qui n'existait pas, c'est la pensée. Voilà, on croit que la guerre, il n'y a pas de pensée dedans, c'est juste j'envoie mon missile, il va tout droit. Alors là, on a bien vu, le missile, il ne va pas tout droit. Il peut feinter, il peut jouer au foot, ah, il peut dribbler, c'est incroyable. Bon, en plus, pour bien marteler la prise de contrôle, l'Iran fait entrer des convois humanitaires ou dans la bande de Gaza, et les gens chantent, les gens peuvent remanger. Qu'est-ce que c'est qu'on assiste à des choses? Alors Trump, je vais vous dire, moi on commence à lire la deuxième moitié de l'émission, presque à la fin, parce que là, il ne faut pas trop en parler, tout le monde a parlé et glousé. Avant, je sais pas si c'était avant la frappe ou juste quand l'Iran a commencé à réagir, Poutine a fait un discours, parce qu'en ce moment, Poutine, au niveau des discours en temps de guerre, la communication, voilà, en temps de guerre, il a pris le dessus complètement. Ça, c'est comme l'ayatollah Khamenei, il a pris le dessus complètement sur les beaufs de l'Amérique, là, qui n'ont pas une communication de guerre, tout ce qu'ils savent, oui, on va tuer un tel général, oui, on va tuer, attendez, l'Iran, l'Israël, d'ailleurs, qui arrive dès le début, et pourquoi Israël mérite ça? Elle tue des généraux, ils viennent, je sais pas si c'est ils viennent l'État, ils viennent, ils tuent des généraux, mais ça se fait jamais à la guerre, ça, ils ciblent, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ça qui fait que la colère, parce que c'est la guerre lâche à Israël, donc pour prendre l'avantage, il faut qu'ils viennent tuer ceux qui pensent, et comme ça ils vont dire, oh, il n'y aura plus de penseurs, et celui-là, et le guide suprême. Même comme Trump a voulu rigoler là-dessus, mais il faut pas. Il faut pas justement jouer sur ça. Est-ce comme si on disait que le président de la République aux États-Unis, c'était la racaille? Non, il faut pas jouer avec ça. Ils sont très maladroits aux États-Unis, très grossiers, de toute façon, au niveau de la communication, parce qu'ils pensent tout en termes de muscles et tout. Non, la guerre, c'est du raffinement, c'est une symphonie musicale. Alors, si vous comprenez ça, la musique, c'est pas la. L'abattage, c'est des notes. C'est des notes. Et ça, c'est quelque chose de très, 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 très fort. Alors, il tue des généraux, mais la colère du gouvernement iranien et du guide suprême est infinie. Franchement, quiconque ferait ça quelque part, c'est infini. Là, pour le moment, lui, vous voyez, l'Iran, il tue pas les généraux. Je sais pas si les généraux en Israël, non. C'est pas ça la guerre, c'est pas ça. Et ça, c'est ce point que Israël a touché. Mais ça va être compliqué à calmer. Ça va être compliqué à calmer par la diplomatie. Et Poutine a fait un discours, ça va être le mot de la fin. Et lorsqu'il dit à Trump que Trump défend l'indéfendable. Ça, c'est pour. Résumer le discours qui était plus. J'ai essayé de prendre quelques notes là, je vais voir si je peux le retrouver. Hein. Où il dit à Trump, voilà, que d'ailleurs il y dit Trump a dépassé toutes les limites. C'est ce qu'il dit. Il dit aujourd'hui, je parle avec colère, mais aussi avec lucidité. Et le pot aux roses arrive, Israël n'est pas un État, c'est pas un pays, pardon, c'est une base militarisée déguisée en État, une base militaire américaine déguisée en État. Donc déjà un masque ou un clone, j'en sais rien. Donc alors il s'insurge quelque part, alors que lui avec l'Ukraine il fait ceci, ils ont des sanctions et puis Israël n'a jamais rien. Donc c'est une farce et une comédie hypocrite et il trompe pour lui. Il a dit qu'il était Trump défendait la paix, toi qui défends la paix, ben là tu soutiens maintenant la guerre parce que ça t'arrange politiquement, tu défends l'indéfendable, tu encourages une agression sanglante et illégitime, ça c'est de l'égoïsme à l'état pur, ce n'est pas de la diplomatie. Il met en garde que tout ce qui soutiendra Israël dans ce qui se passe là portera la responsabilité d'un embrasement mondial. Ça, c'est ce qu'il a dit, hein, Trump, tout de suite, après les frappes d'Israël, de l'Iran. Il dit, aidez l'Iran et vous entrerez dans un conflit que vous ne contrôlerez plus et je vous le déconseille. Et ça, c'était un discours qui ne s'adressait pas seulement à l'Amérique, parce que là, il avait nommé et doigté Trump, mais s'adressait aussi à tout leader ou à tout État qui entrerait dans cette guerre aux côtés d'Israël. Bon, voilà. Après les frappes de l'Amérique, qui d'ailleurs ont une signification assez double, hein, parce qu'on peut frapper justement par ce genre de discours que Poutine a. Et avant ce discours, il y a un discours plus fort encore, qui est très philosophique sur la philosophie de la guerre. Et c'est pas étonnant, il faut qu'on revoie Dostoïevski, La guerre et la paix, pour comprendre. Alors, dans un pays où un auteur a écrit quelque chose comme ça, je crois que l'Amérique est très loin de comprendre. Et il lui faut des intellectuels, hein, dans l'équipe américaine, des hommes de culture. Et après la frappe des États-Unis, bien sûr, le guide qui est déjà ulcéré, il a ordonné qu'il pourrait frapper, enfin, il a déclaré qu'il pourrait fermer le détroit d'Ormuz et il pourrait aussi frapper la flotte américaine tout autour de la région. Et alors là, ça a compliqué. Bah oui, parce que si on commence comme ça, on ne s'arrête plus, on ne sait pas où on s'arrête. S'il faut monter aux enchères, bon, l'Amérique, moi je crois que ils avaient dit, quand l'Iran a bombardé, a répondu à Israël, ils avaient dit, Trump a dit, oh, nous donnez-nous 2 semaines, je vais répondre dans 2 semaines. Mais entre-temps, comme à l'habitude Israël, en 2, 3 jours, ils reviennent de façon furtive avec leurs avions spéciaux, là. Ils vont faire un baroud d'honneur, parce que c'est finalement ça, en allant bombarder ce qu'ils appellent les installations militaires, je sais pas où, nucléaires dans les montagnes et tout, et tout, et tout, qui d'ailleurs avaient été évacuées. Bon, enfin, c'est une histoire de fou, mais il fallait que Trump, tel que Poutine l'a indexé, il fallait qu'il fasse quelque chose. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Maintenant, ben, je pense que ça n'appelait pas cette réponse-là, ça appelait aussi une autre communication différente. Mais alors, le fait que Monsieur Poutine, qui est quand même un ex-agent du KGB, puisse venir comme ça démonter toute l'opération d'Israël et de dire que Israël n'est pas un État, c'est ni un pays, c'est une base américaine militaire avancée. Donc c'est pas un État, c'est pas un pays. Alors je me suis dit, ah, ça c'est ce qui m'a. Israël n'est pas un État, Israël n'est pas un pays. Ah, ça remet beaucoup de choses en cause parce que c'est pas dit par n'importe qui. C'est pas dit par n'importe qui. Et c'est aussi la grande discussion autour d'Israël qui, jusqu'à présent, ils ont réussi une opération de camouflage incroyable. Bon, non seulement c'est une base militaire, mais aussi il y a la Bible qui en parle. Et on en revient donc à la question de l'interprétation des textes bibliques. Je ne sais pas, le pape dira ce qu'il dira, mais d'un point de vue strictement, comment j'allais dire, on va apparemment dire littéraire, il y a une dame qui a expliqué que, qui connaît, hein, très bien ces choses-là, que le problème d'Israël provient d'une confusion extraordinaire ou d'une récupération, en fait, d'une récupération. C'est que Jacob a combattu un combat avec Dieu et il a gagné le fameux combat, et à l'issue duquel son nom est devenu, il a pris le nom d'Israël, nom de baptême. Voilà. Et ça fait que Abraham et ses fils, qui c'était Abraham le père dont on dit qu'il est le père des religions, de toutes les religions, avait effectivement eu la promesse de Dieu de lui donner un peuple, enfin un pays. Et ce pays-là, c'était pas, s'appelait pas Israël, ça s'appelait Canaan. Donc c'était les Cananéens ou Cananéites, je ne sais plus comment on dit, qui habitaient ce pays-là, où qui a été donnée en possession à Abraham. Et Abraham, qui prend possession du pays, bah, pendant tout ce temps-là, c'est Canaan. Là où Jésus, je crois que ça doit être le même endroit, hein, allait opérer le miracle. Vous voyez, la Bible, ça se recoupe quand on va le regarder. Et comment se fait-il qu'après, les Cananaïtes deviennent des Israéliens? Erreur d'interprétation, tout simplement, parce que d'interprétation, de traduction, Israël n'a jamais été le nom d'un territoire, mais le nom de baptême de Jacob. Du coup, lorsque on saute, fait un saut dans l'histoire, parce que jusque-là, il n'y a pas d'Israël comme nation, territoire, c'est ce qu'elle dit, comme terre, c'est Canaan, ils sont la terre de Canaan, je ne sais pas comment on dit. Et là, on se projette dans l'histoire et lorsque Israël est créé en 1948, il y a le choix, une discussion entre le mot, on pourrait appeler cette terre Sion, on pouvait l'appeler, je ne sais plus, j'ai bu quoi, il y a un nom là, oh, je ne sais plus, vous savez. Il y avait un choix. Et puis, Ben Gourion a dit, on va nommer cette terre Israël. Voyez? Et c'est comme ça que les choses vont en se métamorphosant, en se transformant dans une sorte je sais pas, de mixte de religion. Mais en fait, la terre qu'on donnait à Canaan, dans l'esprit, ce n'était pas une terre pour aller exterminer les gens, pour aller en faire un lieu, une base de la spéculation immobilière ou une base d'un grand business. C'était la terre, une terre pacifique, je sais pas. Donc, ce religieux qui est récupéré comme ça par Ben Gourion, en 1948, et qui arrange bien. Peut-être c'est une opération, mais c'est pas peut-être lui seul, ça vient pas tout seul, parce que tout ce qui se fait là-bas, ça se fait en groupe, et qui est ou soit récupéré ensuite par l'Amérique, ou était déjà programmé, on ne sait pas, parce qu'avant l'Amérique, il y a quand même eu l'Empire britannique sur place. Donc, est-ce que les Palestiniens sont les descendants des Canaanites, les Cananéens? Je ne sais plus, parce que je dis Cananite, mais ça, j'ai l'anglais qui me... et le français qui se télescope. Tout ça, on ne pouvait pas en parler parce qu'en parler, vous voulez dire, on rouvre la porte d'Hitler, antisémitisme et tout, et on voulait dire les pleurs, machin. Toujours est-il dit que ça, c'est quelque chose d'intéressant et donc rayer Israël de la carte prend encore un sens, un autre sens, parce que effectivement, si c'est même pas la terre. Ça voulait dire c'est l'esprit parce que les Cananéens ne devaient pas, les Cananéens, je sais pas, franchement, j'arrive pas à dire ça, n'étaient pas dans cet esprit-là, donc revenir sur l'esprit de Canaan. C'est une histoire, hein. Le pape appelle à la paix, c'est normal, appelle à la paix, et j'étais contente de voir les collusions, puisqu'on est dans le mysticisme et dans le... On a ailleurs, je ne sais pas des spirituels, je sais pas, ça, quand on dit spirituel, on commence à être dans le spiritualisme, la spiritualité, ça dérange. Alors, j'ai vu que la terre était enlacée par deux sortes de bracelets d'anneaux. L'autre qui part dans un sens vertical et l'autre dans le sens horizontal et qui enlace la Terre, même s'il y a un grand débat hein, sur la Terre, est-ce qu'elle est plate, est-ce qu'elle est ronde. Mais en fait, il y a des forces telluriques qui font que cet anneau, il y a un anneau qui... Tous ces anneaux se touchent et quelque part, moi, l'anneau qui m'a... Tac, c'est celui qui passe par le Machu Picchu là-bas. Enfin, j'ai pensé au Machu Picchu, mais c'est vraiment pas le Machu Picchu, je crois que c'est le Pérou ou par là, et ça continue, c'est plus complexe. Et je le dis parce que j'ai pensé à Elisa, vous voyez, le petit feuilleton qu'il y avait pour les enfants, Elisa et Darwin, le singe dans la forêt, avec leur père Nigel, c'était toujours un grand explorateur. Probablement britannique, j'étais là-bas, enfin qui était fan de l'exploration forestière, des découvertes scientifiques. Et Je dis ça parce qu'Elisa, moi je m'appelle Élise. Elisa, elle était dans la forêt, fin de la forêt, avec Darwin, aller faire des aventures, aller faire des découvertes. Et là, au niveau du Machu Picchu, dans ce feuilleton, tel que ce feuilleton nous rapporte, il y a eu la rencontre entre la science, la modernité qui se déplace, ou plutôt qui embrasse la nature et ça fait corps dans une, au sein d'une famille. Voyez, on dit que les voies du Seigneur sont impénétrables. Donc le pape Léo, Elisa, l'interconnexion, les forces de la nature, l'interpénétralité de la modernité et de la... C'est toute une symbiose et une symphonie qu'on ne peut pas expliquer. Donc voilà, bravo à l'Iran. De toute façon, moi, je fais le pari ici que le pilonnage, ça va durer. Je prends le pari là, ça va durer tant que Israël ne se... Il ne peut pas se soumettre, mais ils vont se soumettre. Parce que c'est Trump qui va les sortir de la grande humiliation. Amis de Radio Silence, vous avez écouté Flash sur le Monde par Élise Mbock. Je vous dis à bientôt.